Bonjour. Aujourd'hui, on explore ensemble la scène théâtrale puis lyrique à Paris. On a une liste assez impressionnante de lieux. C'est fou, là. Ça couvre vraiment tout Paris, on dirait. Des théâtres, des opéras, des grands, des petits, des vieux, des plus neufs. Notre but, ben, c'est de voir ce que cette richesse, cette variété nous apprend sur Paris, sur sa culture. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces noms? On regarde ça ensemble. OK, première chose qui saute aux yeux, là, c'est vraiment l'écart de taille. T'as des endroits minuscules, genre la Petite Loge, 25 places, ou l'Antre Magique, 49. C'est intime, ça. Puis à l'autre bout, ben là, t'as des géants comme le Théâtre du Châtelet, plus de 2000 sièges, ou Mogador, pas loin de 1900. Comment ça se peut, une telle différence?
C'est une bonne question. Ça touche vraiment à l'écosystème du spectacle à Paris. Cette diversité de taille, ça suggère différents modèles, tu sais. Les petites salles, ben, c'est parfait pour essayer des affaires, prendre des risques. T'as une proximité avec le public qui est unique. Les grandes salles, elles, visent plus les grosses productions, parfois plus commerciales ou institutionnelles. C'est peut-être ce mélange-là qui fait que ça marche si bien à Paris. Il y a de la place pour tout le monde, genre.
Je vois. Il y a de la place pour différentes ambitions.
Exact. Puis au-delà de la taille, l'histoire, c'est frappant. Quand tu penses à l'Odéon, 1782, les variétés, 1807, Bobino, 1816, l'atelier 1822, sans oublier la Comédie française avec la salle Richelieu, des théâtres qui roulent depuis plus de deux siècles. C'est quelque chose quand même.
Ah oui, c'est fou.
C'est pas juste des vieux murs, là. C'est une preuve de résilience culturelle assez forte. On peut se demander comment ils ont pensé à travers tout ça.
C'est vrai, tu sais, les révolutions, les guerres, ça interpelle cette longévité. Puis c'est pas juste figé dans le temps, hein? Vous disiez que certains ont changé de nom. Le Théâtre Antoine, c'était les Menus Plaisirs avant.
Oui, exact. Ou le Théâtre de la Ville qui s'appelait Théâtre Sarah Bernard,
ben oui.
Puis qui a été renommé pendant l'occupation à cause des origines juives de l'actrice. Ces changements de nom, c'est pas anodin, là?
Non, c'est ça. Ça raconte l'histoire avec un grand H directement sur la façade.
Tout à fait. Ce sont des marqueurs. Prends le Bataclan, ouvert en 1865. Bon, aujourd'hui, le nom évoque autre chose, mais ça montre la continuité du lieu de spectacle. Ou l'Athénée Louis Jouvet, qui a eu plusieurs noms avant ça. Chaque théâtre a comme sa propre bio qui reflète celle de Paris.
Intéressant. Et la géographie dans tout ça, on voit des concentrations, non? Les grands boulevards, par exemple, les variétés, la Renaissance, la Porte Saint-Martin. Est-ce que c'est encore là que ça se passe, le cœur du théâtre?
Ben, historiquement, oui, c'était le quartier des théâtres. Aujourd'hui, disons que c'est plus réparti. Montmartre a son coin aussi, tu sais, avec l'atelier, le Funambule, le Trianon. Puis t'as ce cas vraiment particulier de la cartoucherie de Vincennes.
Ah oui, la cartoucherie.
Oui, c'est pas juste une adresse. C'est un projet né après 68 qui regroupe plusieurs troupes comme le Théâtre du Soleil dans un lieu un peu à l'écart. C'est une autre façon de faire du théâtre, plus collective, peut-être plus engagée. Ça contraste pas mal avec les boulevards, là.
Intéressant ce contraste. Et pour l'opéra spécifiquement, la liste nomme Bastille, Garnier, l'opéra comique, les Champs-Élysées, c'est comme un monde à part.
Disons que l'opéra a ses exigences propres, techniques, acoustiques. Fait que oui, il y a des lieux dédiés. Garnier puis Bastille, c'est l'opéra national. L'opéra comique, c'est pour le genre typiquement français, parler et chanter. Puis les Champs-Élysées, même s'ils font d'autres choses, c'est une grosse scène pour l'opéra aussi. C'est une offre à part, mais ça fait partie du portrait global, tu sais.
OK. Puis on voit aussi des lieux avec des vocations vraiment uniques, comme l'IVT, l'International Visual Theatre, qui est dans l'ancien théâtre du Grand Guignol. Le changement est radical, de l'horreur à la culture sourde.
C'est un bon exemple. Ça montre qu'il y a de la place pour l'innovation, la spécialisation. L'IVT, c'est super important pour la langue des signes. Ou le Théâtre du Temps, qui a commencé avec la création franco-japonaise. Ça illustre l'ouverture. Puis ça continue de bouger, là. Le Théâtre de Passy est ouvert en 2021.
Ah oui, quand même!
Fait que l'histoire s'écrit encore. Finalement, ce que cette liste montre bien, c'est que Paris, bien, la scène, c'est pas juste un extra. C'est dans son ADN. Toute cette histoire, cette diversité de lieux, de formats, de géographie, c'est ça qui nourrit une vitalité culturelle assez exceptionnelle. Paris, c'est une ville-théâtre, vraiment.
C'est une belle image, ça, ville-théâtre. Puis ça m'amène à une dernière réflexion. On a beaucoup parlé des grands noms, des histoires connues. Mais tous ces petits théâtres-là, ceux de 30, 50, 80 places, un peu partout dans les quartiers, quel est leur impact à eux? Comment ce réseau plus discret, plus local, comment ça façonne la créativité au jour le jour, l'accès à la culture loin des projecteurs? Quelles histoires se racontent sur ces petites scènes? C'est peut-être là aussi, dans ces petits lieux, qu'une partie essentielle de la vitalité de Paris se joue. Ça donne à penser.